Les As de la copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété, présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau des As de la copro, une nouvelle émission dédiée à la copropriété, l'émission des gestionnaires de copropriété de l'ANGC, dédiée aux gestionnaires, dédiée aux syndics, mais dédiée aussi aux copropriétaires qui nous écoutent, les plus avertis, les membres du conseil syndical ou tous les autres. Aujourd'hui, on va commencer à nouveau cette émission par la séquence 1000 millième avec un invité de marque. Je vais vous le présenter et d'abord jingle, c'est la séquence 1000 millième.
Les As de la copro, 1000 millième.
Alors aujourd'hui dans 1000 millième, je reçois un syndic marocain. Il arrive de Casablanca, Tariq Znieber. Bonjour Tariq.
Bonjour Gilles.
Alors Tariq Znieber, vous êtes à Paris en ce moment, à l'occasion du salon de la copropriété. Alors l'émission est préenregistrée, mais vous avez participé à cette grande messe de la copropriété à Paris. Vous êtes syndic au Maroc. Nous sommes venus vous voir à Casablanca au printemps dernier pour voir comment un syndic marocain bossait, et aujourd'hui c'est vous qui venez ici et je vous reçois sur ce plateau pour parler de votre métier, des similitudes, des différences avec la France. Donc vous êtes directeur général du cabinet Ra'a Syndic à Casablanca. En quelques mots, présentez-vous, comment vous êtes arrivé déjà au métier de syndic?
Ouais, merci Gilles déjà pour ton invitation. Effectivement, on est venu au salon de la copro, on a appris beaucoup de choses, mais on y reviendra peut-être. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai atterri dans le syndic, je dirais par accident. J'étais en charge d'une filiale d'un grand groupe financier au Maroc, déjà dans un premier temps de tout ce qui est moyens généraux. Ensuite, on m'a confié aussi la responsabilité d'un département, d'une direction recouvrement contentieux. Et au bout du bout, en tant que copropriétaire moi-même, je me suis dit que bon, il y avait quand même un besoin au Maroc en termes de gestion de syndic. Et le mix, finalement, entre les moyens généraux, le contentieux, les aspects comptables, moi je suis de formation audit contrôle de gestion, ben, je pense que ça faisait un bon melting pot et la sauce pouvait prendre en termes de syndic. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette activité avec un réel besoin au Maroc.
Alors, votre entreprise s'appelle Ra'a Syndic. Parlez-nous rapidement de votre entreprise. Vous êtes installé dans le centre-ville de Casablanca. Le nombre de collaborateurs que vous avez?
En fait, comme je disais, donc, face aux besoins en termes de syndic au Maroc, donc, on a lancé l'activité il y a à peu près 8 ans. On a démarré from scratch. Au début, on n'avait même pas de bureau. On travaillait avec... j'étais seul gestionnaire. Et bon, après, bon, l'équipe s'est agrandie petit à petit. Mais donc, aujourd'hui, on a nos bureaux qui sont installés au centre de Casablanca. On gère l'équivalent de 120 copropriétés. C'est un certain nombre d'immeubles. Donc, si on devait traduire ça en immeubles, parce que bon, chez nous, c'est aussi des résidences. Et une résidence, il peut y avoir un ou plusieurs immeubles. J'imagine que c'est comme chez vous. Donc, 120 résidences, ça peut représenter l'équivalent de 250 immeubles. Ça représente l'équivalent de 5750 ou 6000 copropriétaires. Donc, on a bien évolué pendant ces 8 ans.
Donc, ça fait, admettons, 5500 lots, hein, 6000 lots. Ça fait un beau petit cabinet, hein, même si vous étiez un cabinet ici en France. Combien de collaborateurs pour gérer ces 5000 lots?
Aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs. On est répartis en trois zones. Une première qui s'occupe du recouvrement. Ça, c'est un volet qui est important. On en discutait hier soir aussi sur les aspects de recouvrement et les procédures judiciaires qui sont enclenchées. En tout cas, donc on a 6 personnes qui s'occupent du recouvrement. On a 3 personnes qui sont au niveau de l'administration, de la comptabilité, et le reste de l'effectif, c'est-à-dire une petite quinzaine de personnes qui font de l'opérationnel au quotidien et qui gèrent donc la partie opérationnelle.
Oui, donc chez vous, alors vous êtes passé dans nos bureaux là ce matin, je vous ai présenté le cabinet Coraz et le fonctionnement, on va dire, classique des syndics en France en mode trinôme, hein, un gestionnaire avec un portefeuille, un gestionnaire qui est un collaborateur, un salarié, et son assistant, c'est-à-dire son binôme, et puis un comptable. Vous fonctionnez différemment chez vous ?
Effectivement, donc l'organisation est un peu différente, c'est-à-dire que bon, on a des chargés de compte qui s'occupent donc essentiellement de la relance pour le recouvrement, et chaque chargé de compte a effectivement un portefeuille, mais qui sera découpé différemment des superviseurs ou des gestionnaires opérationnels. Donc une chargée de compte a un portefeuille qui fait entre 800 et 900 copropriétaires qui sont relancés de façon déconnectée d'un superviseur qui lui va gérer une trentaine, une quarantaine d'immeubles sur le volet simplement opérationnel. Bon, après il y a des interconnexions parce qu'ils se parlent entre eux, la personne qui relance pour le recouvrement, elle se fait tacler sur un problème d'ascenseur ou d'ampoule qui est grillée, donc elle va communiquer au superviseur, en tout cas au gestionnaire opérationnel.
Mais c'est encore vous le patron qui tenait toutes les assemblées générales par exemple, vous n'avez pas de gestionnaire autonome qui va gérer ses AG.
On a essayé, mais vu l'exercice de style, et comme tu dis aussi dans tes posts, Gilles, c'est l'épreuve du feu. Ouais. Il faut avoir déjà le doigté, la carapace, des fois le casque pour faire face à un certain nombre de copropriétaires. Même si, et j'ai compris que même en France c'était le cas, on ne fait pas toujours salle pleine, mais bon, il faut avoir le verbe et la carrure pour faire face aux copropriétaires. Donc pour l'instant, les assemblées générales, c'est moi qui le fais, personnellement, en tout cas où il y a Mademoiselle Znebra, ma fille, qui m'accompagne, donc elle aussi, elle commence à prendre le relais. Puis ça fait un certain nombre d'assemblées générales par an, quand on ne te demande pas de faire des assemblées générales extraordinaires pour valider tel ou tel sujet.
Alors, je reste sur votre entreprise pour avoir une idée hein, de comparaison par rapport à la France. Est-ce que vous raisonnez en termes d'honoraires, en nombre de lots, pareil, un immeuble de 20 lots, vous allez prendre combien d'honoraires pour le gérer à l'année ?
Alors, sur un immeuble de 20 lots, clairement, nous, on a des honoraires, je dirais, planchers, d'accord ? C'est un minimum de 200 euros par mois. D'accord, multiplié par 12, ça fait
1400.
Ça fait un peu plus, je pense, 200 euros fois 12.
Oui, pardon.
D'accord, ça fait
plus. Vous êtes bien payé, oui.
D'accord, 200
vous
euros.
Vous pratiquez de bons honoraires.
Sur un petit immeuble hein, de 20 lots. Après,
ça fait 2400.
Ça fait 2400 euros par an. D'accord, maintenant sur des immeubles qui sont... Nous, on est sur des immeubles, je pense que le nombre de lots moyen, on est plus aux alentours de 40 ou 45 lots par copropriété. Et donc, dans ces eaux-là, on va peut-être descendre à 150 euros par mois, voire 100 euros. Quand on est sur des copropriétés où ils sont 200, 250, on fait un tarif aux alentours de 70 euros par lot. Non, 6 à 7 euros par lot par mois, voilà.
D'accord, c'est ça. Oui, donc c'est à peu près, nous en France, si on parle en lot par mois, plus sur du 20 euros à
c'est
peu
ça.
Près, par lot par mois. Mmh. Donc on n'est pas si loin que ça, sachant que bon, chez nous, la masse salariale, les charges sociales, parce que c'est que du personnel, hein,
c'est ça.
Là, c'est que de la main-d'œuvre, la
Exactement.
Gestion de copropriété, c'est peut-être plus rentable chez vous.
A priori, je pense qu'il y a un axe effectivement de rentabilité qu'on peut atteindre plus facilement au Maroc, notamment vu le besoin et surtout vu notre positionnement. Et aujourd'hui, on refuse quand même pas mal de demandes. Donc, il y a de la demande. On a la capacité d'augmenter nos tarifs et même d'aller un peu au-delà.
Vous avez, alors on va parler du modèle. Mmh. On a compris qu'on avait les mêmes copropriétaires, les mêmes problématiques humaines.
Les
mêmes pathologies sur les immeubles. Au niveau de l'organisation plus juridique, est-ce que vous fonctionnez comme en France, le syndic est le syndic professionnel, donc le cabinet RAS syndic est le syndic représentant légal du syndicat, des copropriétaires ou de la copropriété, ou, et c'est un deuxième modèle que vous avez, vous intervenez en tant que prestataire professionnel d'un syndic bénévole. Vous êtes sur ces deux modèles-là, mais le deuxième est peut-être plus dominant chez vous.
On a les deux formules. La vérité, quand on a démarré notre activité, on était plus dans une démarche d'accompagnement de syndic bénévole et à la limite, ça nous arrange bien, d'accord, d'avoir un mandat de gestion et de travailler sous la direction d'un bureau ou d'un conseil syndical. Donc c'est le modèle qu'on privilégie. Maintenant, très souvent, et parfois, les copropriétaires nous disent « Non, nous, on n'a pas envie de prendre de responsabilité, on veut être complètement déconnecté, s'il vous plaît, soyez syndic. » Et là, on est la personne morale, syndic, donc, de l'immeuble. Et on prend cette responsabilité. Ça nous arrive surtout dans des...
C'est plutôt ce modèle-là qui progresse ?
Je pense que de plus en plus, effectivement, les copropriétaires, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, même si on leur dit, même en tant que mandataire, et même si on a un mandat de gestion, c'est nous qui faisons tout le travail. Hein. Et, bon, ils sont rarement convoqués au tribunal ou au niveau des autorités quand il y a des problèmes. C'est toujours nous qui y allons.
Alors, parlons de Casablanca, on y est allé, la ville est en plein boom, le pays est en plein boom économique et surtout sur l'immobilier. On a des constructions d'immeubles neufs à perte de vue, ça pousse comme des champignons. Ce sont des lotissements d'immeubles de entre 8 et 15 étages. Toutes les infrastructures routières et écoles, etc. qui se créent. Il y a, comme vous dites, une autoroute, un boulevard pour vous, pour les syndics, qui est un métier naissant. Il y a des immeubles à aller chercher, à prendre, à récupérer, à aller gérer.
Je dirais, on n'est plus dans cette démarche d'aller chercher les immeubles, c'est les immeubles qui viennent vers nous. En plus, on a la chance de travailler avec un certain nombre de promoteurs qui construisent à tour de bras. Donc, chaque fois qu'il y a un projet qui finit, on est sollicité, on intervient et on se positionne. Et bon, aujourd'hui, on est sur 120 résidences, d'accord ? On a une capacité d'absorption. Après, justement, c'est peut-être sauter le pas pour arriver peut-être dans un an et demi à 200 résidences.
Il y a un marché énorme, en tout cas.
Le marché est là. Hein. Il faut juste suivre et garder le cap, maintenir les mandats, ne pas en perdre. Aujourd'hui, on serre les dents pour continuer sur la progression qu'on a, qui est une très bonne progression, moi j'estime. Et bon, pourquoi pas, déjà au niveau de nos bureaux, il faut qu'on commence à pousser les murs, donc recruter un peu plus et prendre de nouveaux mandats, ouais.
Et vous allez pouvoir ouvrir plusieurs agences dans plusieurs villes, vous allez pouvoir vous étendre.
Non effectivement, je te rappelle Gilles qu'on vous attend avec Pierre-Edouard à Tanger en 2026. D'accord, donc Tanger c'est notre prochaine cible, voire Rabat qui est à proximité. Mais l'idée c'est de pouvoir continuer à gérer aussi des agences à un horizon de 100 ou 150 kilomètres. Tanger, c'est un peu plus loin.
Parlons du cadre. Il nous reste quelques minutes. Alors, vous avez une loi qui régit le statut de la copropriété, qui a une vingtaine d'années, je crois. On n'a pas le temps de parler de cette loi. Je préférais... mais bon, c'est une petite loi du 10 juillet 1965, pour donner une idée à nos auditeurs. Plutôt le cadre de la profession. Chez nous, on a une loi qui s'appelle loi Auguet qui réglemente l'accès à la profession. Il faut un diplôme, un bac plus 3, il faut un casier judiciaire vierge, il faut une caisse de garantie, il faut une assurance responsabilité civile professionnelle. Au Maroc, ça n'existe pas, ça ?
Non, au Maroc, ça n'existe pas, mais de toute façon, je dirais, le nettoyage se fait par les copropriétaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils voient un syndic loufoque en face, il ne fait pas long feu. Donc, c'est vrai que vous pouvez faire la profession de syndic, mais si vous vous amusez à faire du détournement, etc., croyez-moi que les copropriétaires vous rattrapent vite fait et ils vous foutent à la porte. Donc après, je dirais le nettoyage se fait de façon naturelle et parce qu'on a des copropriétaires qui, comme en France, sont de plus en plus exigeants, qui regardent les comptes, etc. Ça d'une part, et d'autre part, comme je le disais ce matin, à partir de 100 000 euros de cotisations collectées, on nous impose un commissariat aux comptes à partir de 2026. Donc ça doit être un commissaire aux comptes indépendant qui va venir valider les comptes que vous aurez produits. Donc, c'est pas à peine de faire le malin, quoi.
Vous souhaiteriez quand même vous organiser un peu plus
pour
professionnaliser le métier.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on est content de ce partenariat avec la NGC. Et bon, aujourd'hui, bon, hier, au niveau du salon de la CoPro, j'en ai reparlé avec les gens de Sergic. On est militant pour créer effectivement un ordre professionnel. Je pense que même en France, vous ne l'avez pas, mais peut-être qu'on va y arriver avant vous.
On aimerait l'avoir. ouais, alors là, je serais jaloux. Hein.
Déjà qu'on va essayer de reproduire le modèle du salon de la CoPro, je pense c'est des idées intéressantes. Mais donc avec nos confrères de Cergy qui sont implantés au Maroc, avec d'autres confrères que je connais et qui sont partants, je pense que le fait de réglementer le métier, de professionnaliser davantage, avec aussi l'appui de la NGC, ça sera une vraie valeur ajoutée pour tout le monde, vu en plus l'ampleur du marché qui est en face de nous.
Et parce qu'on parle de la protection du consommateur, entre guillemets, exact, du copropriétaire, ouais. Au final, la loi Hoguet, c'est d'abord une loi pour ça. Alors moi, je vous le souhaite, hein, bien sûr. Par contre, un conseil, ne surréglementez pas trop. Ne tombez pas dans une dérive qui soit trop contraignante. Faut regarder un espace de liberté pour les professionnels. Nous, aujourd'hui, on a peut-être un peu trop de contraintes au niveau du contrat type de syndic, on en a beaucoup parlé hier. Il faut quand même laisser un espace, une marge de manœuvre, tout en protégeant les intérêts des copropriétaires, mais tout cela dans un juste équilibre. On arrive au terme de cette émission, ça passe vite. On n'a pas eu le temps de parler de la gestion des immeubles neufs que vous faites beaucoup, mais en deux mots, on a les mêmes problématiques, les mêmes pathologies, les mêmes désordres.
Exactement.
Et c'est là qu'on voit que, quel que soit le pays, on fait exactement le même métier. C'est juste que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes.
D'où l'intérêt de l'ouverture à l'international. On compte sur toi, Gilles, pour fédérer tout ça, entre la Belgique, le Portugal, etc. J'espère que
c'est
pas un scoop, mais...
Voilà. Non, c'est pas un scoop. On a pour projet de créer une association internationale de syndics de copropriété. Les Québécois sont motivés. Les Belges aussi, les Marocains. On a même le Cambodge qui est motivé. Les Portugais sont ultra motivés. On les a tous vus au salon hier. Et on fait vraiment tous le même métier, syndic de copropriété. Partout autour de la planète. Je vous remercie beaucoup.
C'est moi. C'est
Tariq Zniber, je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet Raha Syndic à Casablanca. Et on enchaîne sur la deuxième séquence, l'analyse des experts.
Les As de la CoPro, l'analyse des experts.
L'analyse des experts avec mes As aujourd'hui. Qui je reçois aujourd'hui? Je reçois Pierre-Edouard Lagrelet. Bonjour Pierre-Edouard.
Bonjour Gilles.
Vous êtes en forme? Petite forme aujourd'hui, petite angine?
Oui, petite angine, mais grande forme quand même, parce que je suis content d'être là. En plus, avec un invité qu'on avait rencontré au Maroc, et ça nous fait vraiment très plaisir de le revoir, sachant qu'on va en plus le retourner fréquenter à Tanger, et c'est une perspective qui nous réjouit, donc ça nous redonne beaucoup d'énergie.
Exactement, vous étiez du voyage d'études. Et Sabrina Meghetti, bonjour Sabrina.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Sabrina Meghetti viendra peut-être avec nous à Tanger.
Eh bien écoutez, si vous m'invitez, je serai ravie de venir.
Voilà, les invitations sont faites. Dans l'analyse des experts aujourd'hui, Pierre-Edouard, je voudrais qu'on parle, parce que c'est un sujet d'actualité, du recouvrement de charges en général, mais plus particulièrement de l'injonction de payer. C'est une voie de recours différente de la procédure au fond. Elle est prévue au contrat de syndic, noir sur blanc. On l'utilise assez peu et aujourd'hui, on aimerait l'utiliser un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur cette injonction de payer? C'est quoi? Comment ça marche?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une voie intéressante. Alors, mes confrères ne sont pas toujours très heureux qu'on en parle parce que c'est une voie qui peut être pratiquée par les syndics eux-mêmes. On peut évidemment recourir au service d'un avocat qui peut le faire en représentation ou qui peut assister un syndic dans l'exercice de cette mission, mais le syndic peut le faire librement puisqu'il s'agit en fait de tout simplement remplir un CERFA qui consiste en une requête, une demande qui est faite de manière gracieuse à une juridiction d'ordonner au paiement de charges. Donc c'est une demande en injonction de payer les charges de copropriété. C'est une procédure générale qui est prévue au code de procédure civile aux articles 1407 et suivants, et spécifiquement est visé par le statut de la copropriété en deux points. Le premier, c'est au décret de 1967 à l'article 60, qui prévoit une dérogation sur la compétence territoriale, parce que par principe, c'est le lieu de situation du débiteur, alors que le statut, pour harmoniser avec toutes les autres règles du statut de la copropriété, prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble. Donc on voit bien que le législateur a pensé spécifiquement à l'utilisation de cette procédure en matière de copropriété, et je dirais en un mot pourquoi c'est adapté. Et ensuite, au contrat de syndic, il y a un visa de cette procédure, puisque le syndic peut être rémunéré pour l'exercice de cette procédure, c'est-à-dire la présentation du CERFA à la juridiction. Et c'est une rémunération qui n'est pas faite pour des diligences extraordinaires, contrairement aux autres du recouvrement. C'est une diligence qui est en elle-même suffisante pour les honoraires du syndic. Donc c'est quelque chose qui permet à la fois d'être attractif, je pense, pour le syndic qui a droit à une rémunération, et également pour le syndicat des copropriétaires, parce que cette rémunération est, à mon sens, et le plus souvent, ce qu'on constate, inférieure à celle d'un avocat qui engage une procédure judiciaire.
Dans mon contrat de syndic, cabinet Cora, je suis à 450 euros hors taxe pour l'injonction.
Donc on va être entre 2 à 3 fois, à 4 fois moins, en fonction des cabinets, moins cher qu'une procédure judiciaire. Il y a de bonnes chances que l'IP soit reçue, que la demande, pardon,
d'IP est injonction de payer. Mmh.
Je vais souvent utiliser l'acronyme, pardon, c'est un petit peu mon défaut, mais retenons qu'IP, c'est injonction de payer. Elle soit fructueuse, modulo des frais. Donc ça peut être notamment ses frais de procédure, ses honoraires de syndic. Mais on sait très bien que dans les procédures de recouvrement, les magistrats n'accordent que très peu souvent des articles 700 qui correspondent exactement aux frais, aux honoraires de l'avocat. Et donc en fait, le restant à charge pour le syndicat sera à peu près le même, si ce n'est moindre, d'assumer les frais du syndic pour l'IP.
Donc moins cher pour le syndicat des copropriétaires et plus rémunérateur pour le syndic.
Plus rémunérateur pour le syndic. Vraisemblablement moins cher pour le syndicat des copropriétaires, vraisemblablement plus rapide, parce que comme c'est une procédure sur requête, elle est non contradictoire, donc le magistrat va ordonner en rendant une ordonnance. Mmh. Cette ordonnance, elle sera ensuite signifiée par un commissaire de justice, et comme on est sur
un
contentieux...
Elle vaut jugement, hein,
elle vaudra, s'il n'y a pas d'opposition... Mais comme, c'est ce que j'allais vous dire, comme on est sur un contentieux, le contentieux du recouvrement, c'est un contentieux dans lequel on a énormément de débiteurs défaillants, c'est-à-dire qui ne se présentent pas à l'audience, qui ne font pas de procédure, qui n'exercent pas de droit dans le cadre de la procédure. En fait, on a de grandes chances que l'ordonnance ne soit pas contestée, qu'il n'y ait pas d'opposition. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ça va valoir titre, ce qui permettra d'aller jusqu'à la saisie-vente, contrairement à ce qui est dit par certains confrères, mais on ne peut pas non plus toujours leur en vouloir, le droit est mouvant, et les règles qui ont changé concernent précisément cette exécution. La décision, l'ordonnance, permet désormais d'exécuter pleinement jusqu'à la saisie.
Comme si nous avions un jugement.
Exactement.
Quel
et
délai,
ça, c'est très important.
Quel délai pour le copropriétaire ?
Parce qu'elle n'est pas fragile une fois qu'elle est définitive.
Pour s'opposer. Et sous quelle forme ?
Alors, la forme, par contre, elle est très simple pour le copropriétaire. Oui. C'est simplement d'écrire qu'il conteste la décision. Mmh. Et dans ce cas-là, soit le syndicat des copropriétaires a demandé à ce que ce soit renvoyé au fond.
Et
dans
et ce cas-là, on part
sur une procédure classique. Soit ça n'a pas été demandé, le syndicat assignera. Mais finalement, ça n'est qu'une question de délai supplémentaire si jamais ça ne marche pas. Parce que si la demande a bien été faite, elle a été faite quasiment comme une assignation, avec toutes les pièces qui ont été préparées pour que le magistrat puisse statuer. Donc il y a un gain de temps dans la préparation de la procédure et du dossier qui sera remis à l'avocat. Donc je crois qu'il y a une vraie pratique à mettre en œuvre, d'autant, et je ne trahis pas de secret, par exemple devant les juridictions parisiennes, à Paris précisément, les magistrats, lors d'une réunion toute récente, qui s'occupe des charges, puisqu'on a une chambre spécialisée à Paris, ont appelé les avocats à pratiquer l'injonction de payer pour le recouvrement de charges.
Donc ils sont réceptifs.
Et se sont étonnés qu'il y en ait si peu, alors que c'est une voie rapide et efficace de recouvrement.
Parce qu'on décharge les tribunaux.
Parce qu'on décharge absolument les audiences. Mmh. Et en fait, quand on a des audiences de charge où on voit qu'il n'y a pas de contradicteur, on se rend bien compte que l'IP est parfaitement adaptée au recouvrement des charges. Alors, il y avait un doute peut-être sur la mise en œuvre de cette procédure, notamment pour les plus petites dettes. Et ce doute résidait dans l'obligation qu'il pouvait ou non y avoir à mettre en œuvre une tentative amiable de règlement du litige préalablement à l'engagement de la demande en injonction de payer.
Pour les créances de moins de 5 000 euros, effectivement, depuis quelques années, on doit passer par la médiation, la conciliation, ce qui pose problème.
C'est l'article 750-1 du Code de procédure civile.
Beaucoup de syndics attendent de dépasser les 5 000 euros.
Et ce qui est problématique, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une... d'une certaine manière, ça dépend évidemment des syndicats de copropriétaires, mais on se rend compte qu'il y a une paupérisation des copropriétaires de la même manière qu'il y a eu une paupérisation des locataires, et on se rend compte qu'à partir d'un certain seuil d'endettement, les copropriétaires n'arrivent pas à rattraper le retard. Et donc en fait, le recouvrement efficace, c'est un recouvrement qui commence tôt, et donc qui commence dès une dette faible. Et c'est pour ça que l'IP... l'injonction de payer est particulièrement adaptée, parce que comme elle coûte peu cher, elle peut être engagée pour des montants de charges peu élevés, contrairement à l'assignation au fond. Parce que l'assignation au fond avec avocat et commissaire de justice pour les actes coûte très rapidement entre 1000 et 2000 euros. Donc on ne va pas assigner un copropriétaire qui a 750 euros de dette. C'est totalement disproportionné, plus les honoraires que le syndic prend parfois, à raison ou à tort, d'après la DDPP, plutôt à tort.
Et donc...
Donc, cette procédure d'IP, elle peut être engagée, et on a maintenant une quasi-certitude à ce propos, elle peut être engagée sans tentative amiable de règlement du litige préalable. On avait débattu de cette question, plusieurs auteurs avaient échangé là-dessus. J'avais pu avoir cette position clairement exprimée il y a plusieurs mois. Je crois peut-être même en avoir parlé à ce micro. La deuxième chambre de la Cour de cassation a rendu un avis qui est particulièrement clair et très intéressant du fait de cette clarté le 25 septembre 2025, donc c'est tout récent. Mmh. Et elle précise, et elle est allée assez loin dans son avis, que la tentative amiable n'est pas imposée ni dans la première phase, ni dans la seconde phase. La première phase étant en amont de la demande d'injonction de payer. C'est-à-dire qu'avant de déposer le CERFA auprès de la juridiction, nous n'avons pas à faire de tentative amiable de règlement du litige. La procédure est parfaitement régulière, recevable sans tentative amiable. Et même en cas d'opposition du débiteur, et c'est la seconde phase, si on repart devant la juridiction, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas non plus besoin de faire une tentative amiable.
Parce qu'on aura
amiable.
Considéré peut-être que l'injonction équivalait à cette tentative de recours en amiable.
Non, c'est plus que ça. C'est que la juridiction considère que cette procédure fait exception au 750-1. Elle n'y est pas visée. La procédure existe pour être rapide et pour être non contradictoire. D'accord. Et c'est précisément pour ça qu'elle échappe au dispositif de l'article 750-1. Il y a peut-être un point d'attention à avoir sur la seconde phase. C'est qu'il faut bien demander, à mon sens, le renvoi devant la juridiction en cas d'opposition pour que ça soit bien une seconde phase et non pas une assignation post-ordonnance contestée. Parce que dans ce cas-là, il y aurait peut-être une rupture dans la chaîne de la procédure et on pourrait considérer qu'il faudrait, dans ce cas-là, appliquer 750-1. Donc on a tout intérêt, dans la demande d'injonction, à demander le renvoi devant la juridiction, et dans ce cas-là, on n'aura à aucune des phases besoin d'engager cette tentative amiable. Donc il y a un vrai boulevard, et c'est un outil qui est, à mon avis, mobilisable, qui doit l'être, particulièrement dans des copropriétés en difficulté, qui ont du mal à financer les honoraires d'avocats, les frais d'huissier. Il faut utiliser tous les outils de droit qui nous sont donnés, et celui-là me paraît être bon. On fait, sans révéler de secrets et donner de noms, il y a des études qui sont faites actuellement, il y a des tentatives qui sont faites avec des syndics au niveau national, et les premiers retours sont assez encourageants depuis un peu moins d'un an. On poursuit ces études et les statistiques qui nous sont données, et je pense que d'ici 6 mois, on pourra avoir des résultats, on les confrontera à la réalité. S'ils ne sont pas bons, on pourra le dire également, mais pour l'instant, ils sont encourageants, et les juridictions reçoivent plutôt très favorablement les demandes d'injonction de payer qui leur sont formulées, contrairement à l'idée reçue qu'on peut en avoir, où l'on entend toujours « mais les IP, c'est très compliqué, on n'en a pas, on est toujours redébouté ». Ça dépend peut-être comment elles sont faites aussi.
Comment elles sont faites.
Et peut-être que quand elles sont faites très correctement, de manière normée, complète, comme un acte d'assignation, eh bien on a de très bons résultats.
Et si elles sont faites avec l'accompagnement d'un avocat, elles seront forcément bien faites et donc reçues par le juge, validées par le juge.
D'un point de vue méthodologique, sans doute que c'est une bonne idée.
Eh bien, merci pour cet exposé complet. On sait tout sur l'IP, l'injonction de payer, et on encourage donc les syndics de copropriété à adopter le réflexe IP. Merci Pierre-Edouard, et on passe à la troisième séquence, la question du copropriétaire.
Les as de la copro, les questions copro.
Bonjour, je suis copropriétaire dans un immeuble en région parisienne et notre syndic nous a annoncé cette année que la mise à disposition de ses bureaux pour la tenue de notre AG serait payante et il nous demande de voter cette option. Je voudrais savoir si c'est légal. Merci pour votre réponse.
Bien, donc on a compris la question du copropriétaire. Le syndic veut louer sa propre salle. Est-ce légal? Est-ce aussi la pratique? Sabrina.
Alors déjà sur un point de vue de pratique des syndics, parce que c'est là-dessus où on peut tous déjà se dire bah, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien, les syndics ne sont tous pas déjà munis, enfin en tout cas ils ne disposent pas d'une salle pour réunir leurs assemblées générales.
Dans leur bureau.
Dans leur bureau, ça c'est la première des choses. Très souvent, ils ont recours à des locations de salles en extérieur. Et là, le cas échéant, cette facture, elle est à la charge du syndicat des copropriétaires. Ça ne fait pas partie de la mission du syndic de mettre à disposition une salle. En tout cas, c'est en ce sens. De prendre en charge cette location de salle extérieure. Aujourd'hui, c'est très clair, la salle qui est dans les locaux du syndic, si elle est mise à disposition des copropriétaires, elle ne doit pas être facturée. Là-dessus, je crois que les textes sont très clairs et il n'y a pas de sujet.
En tout cas, c'est la pratique.
C'est la pratique, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'un gestionnaire de copropriété, il est quand même beaucoup plus à l'aise de tenir une assemblée générale dans ses locaux. Donc il y a quand même la partie confort. Dès lors qu'on en dispose, eh bien, on la met à disposition de nos copropriétaires. On les rassemble chez nous, on a tous les outils. Aujourd'hui, on est aussi équipé pour pouvoir faire de la visioconférence, avoir des moyens aussi de tenir des assemblées générales avec beaucoup plus de participation. Et on peut considérer à peu près tous qu'il est de bon sens de la mettre à disposition à titre gratuit. D'un point de vue très personnel, j'estime que ça fait pas partie du rôle du syndic. Enfin, on n'est pas, c'est pas la
on
valorisation.
Pas loueur de salle.
On n'est pas loueur de salle, Gilles, vous avez raison. Mais en plus, ça ne fait pas partie de notre mission principale de chercher des salles ou bien de se poser cette question de facturation. Quand bien même certains, et on le verra dans un second temps, propose la facturation de sa propre salle, j'estime qu'il y a un moyen de valoriser nos honoraires avec beaucoup plus d'autres points, et notamment le contrat type du syndic
qu'on doit
respecter. Il y a des honoraires complémentaires pour un certain nombre de sujets pour lesquels syndic, eh bien, nous ne les facturons pas. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait, je dirais, accentuer ses efforts plutôt que sur la location de sa propre salle qui, comme je l'ai dit précédemment, fait partie aussi du confort du gestionnaire qui tient des assemblées générales le soir ou autre et permet d'être dans ses locaux. Voilà, je dirais, les pratiques, en tout cas,
les
de la majorité des professionnels que sont les syndics.
Les us et coutumes, exactement. Il est vrai que moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de louer ma propre salle. Je prends l'exemple du médecin qui ne fait pas louer sa salle d'attente à ses patients. C'est un peu pareil.
C'est un bon exemple.
voilà. Non, mais parce qu'on voit certains syndics, certains qui commencent à avoir cette idée pour compléter leur rémunération. Ça, on ne peut pas leur en vouloir, mais effectivement, peut-être sur d'autres prestations plus tangibles, plus intellectuelles, on va dire. Le point de vue de l'avocat, le point de vue du juriste. Alors on parle de louer sa propre salle. On a compris que la salle extérieure, ça faisait partie des dépenses du syndicat des copropriétaires, même si certaines des DPP pensent le contraire, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Là, c'est la propre salle, la question de la copropriétaire.
Et pourtant, c'est le sujet. C'est-à-dire que... Revenons au début. La question de la salle et de sa location, il faut en poser le principe. Donc, qu'elle soit extérieure ou non, la règle qui doit venir saisir cette pratique est la même. C'est-à-dire que quand on prend le contrat de syndic, je n'apprends rien aux auditeurs, c'est un contrat tout sauf... Dit autrement, le contrat exige du syndic qu'il réalise un certain nombre de missions qui sont rémunérées au forfait et lui permet d'être rémunéré pour certaines autres missions qui sont précisément détaillées dans le contrat. Donc, soit la location relève des fonctions du syndic, la mise à disposition de la salle, on va dire, relève des fonctions du syndic, et dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Puisque ça n'est pas visé dans la liste des exceptions, le syndic doit fournir au titre de son forfait sans se faire rémunérer ou défrayer, que ce soit interne ou externe. soit le syndic n'a pas à mettre à disposition une salle parce que ça ne relève pas de ses fonctions, et dans ce cas-là, il peut être rémunéré par la location ou défrayé pour la mise à disposition d'une salle interne et externe. Mais à mon sens, il n'y a pas de distinction à avoir entre interne et externe. Mmh. La distinction fondamentale, c'est est-ce que ça relève ou non des fonctions du syndic. Si ça relève des fonctions du syndic, je le disais, il n'y a pas de rémunération complémentaire à avoir, que ce soit interne ou externe. Dans ce cas-là, il faut le prévoir dans le forfait ab initio, en considérant la taille du syndicat des copropriétaires, en se disant « je dois louer une salle pour 200 copropriétaires tous les ans parce que c'est une copropriété de 200 lots, que je vais avoir 200 personnes, et donc je dois prévoir dans mon forfait X milliers d'euros pour la location, la tenue de la salle, etc. »
Et alors, c'est dans sa mission ou c'est pas dans sa mission alors ?
J'y viens. Mais il me semblait important de poser ce préalable parce que ça permet d'avoir une réponse globale. Je pense que ça ne fait pas partie de sa mission. Je pense que ça ne fait pas partie de sa mission parce que... alors, le contrat est silencieux. La mise à disposition de la salle n'est pas visée dans la liste des missions incluses dans le forfait. Alors certes, cette liste, elle est non exhaustive. Le contrat le précise bien et c'est sur ça que, notamment, la DGCCRF, quand elle procède à des contrôles, elle joue. Elle dit oui, mais la liste n'est pas exhaustive. Oui, cependant, c'est quand même un point très important. Et le gouvernement, s'il avait voulu vraiment que la mise à disposition d'une salle soit considérée comme étant parmi les fonctions, je pense que ça serait visé dans cette liste. Ça n'est pas le seul élément important, bien sûr. L'élément important, c'est la loi de 1965 et son décret d'application. Et à aucun moment, il n'est fait référence au fait que le syndic ait à mettre une salle à disposition de l'Assemblée Générale. Mais d'ailleurs, il n'a pas non plus à mettre à disposition une salle au Conseil syndical. Et ça... Personne ne le souligne. Oui. Mais pourtant, c'est exactement la même chose. C'est la réunion d'un organe du syndicat des copropriétaires que le syndic n'a pas besoin d'héberger en ses murs. Mais personne ne lui dit qu'il faut mettre à disposition la salle du SPES. Pourquoi pour l'Assemblée ? Je ne le sais pas. Ça ne fait pas partie des textes du statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndic, il doit
réunir,
il doit convoquer, il doit préparer, il doit y participer. C'est marqué dans la liste des missions. Alors, soit en qualité de secrétaire de séance, s'il est désigné, soit en qualité de syndic pour éclairer les copropriétaires, mais il n'est à aucun moment dit qu'il fournit une salle. Et je vais prendre quelques exemples. Après, on va confronter ça pour
alors, je pense, s'assurer de... En quelques mots.
Oui, je sais, nous sommes bavards dans notre profession. Mais en quelques mots, j'y viens. Donc, je pense que pour les raisons que je viens d'énoncer, ça n'est pas compris dans le forfait. En plus, il faut revenir à une règle générale, qui est celle du mandat, même si cette règle est un peu galvaudée par l'influence consumériste. En principe, le mandant assume les frais engagés par son représentant. Et donc, quand un syndic engage des frais pour la location d'une salle, pour sa mise à disposition, etc., a priori, c'est pas à lui de les supporter. Ça, c'est une règle générale, mais il faut l'avoir à l'esprit, puisque c'est bien un contrat de mandat. On ne va pas revenir sur cette polémique. C'est marqué dessus comme le porte-salut. Donc, pour ces deux éléments, je pense que c'est hors mission. Ce n'est pas hors forfait, c'est hors mission. Ça veut dire que le syndic va devoir proposer un contrat, respecter les règles d'ailleurs de contractualisation d'une prestation qu'il a avec le syndicat quand c'est lui qui la propose. Et on va voir que si ça n'était pas le cas, ça poserait des problèmes. Parce que si ça n'était pas le cas, si ça n'était pas en mission, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas facturer lorsqu'il doit louer dans une autre commune que la sienne. On voit des syndicats de copropriétaires qui prennent un syndic qui n'est pas dans leur commune. Mais est-ce que c'est au syndic d'assumer le coût de la location de la salle pour tenir de façon régulière l'Assemblée Générale dans la commune du lieu de situation de l'immeuble ? Ça me paraîtrait assez injuste.
Pour conclure,
la taille du SDC... au regard de la salle que le syndic peut avoir, l'absence de locaux disponibles parce que, tout simplement, le foncier est extrêmement cher à Paris, et puis le pire des cas, le changement de syndic où le syndicat impose au syndic de louer une salle parce qu'il veut pouvoir continuer sereinement l'Assemblée Générale et le tenir hors les murs du syndic pour se sentir moins captif. Est-ce que c'est au syndic d'assumer le coût de cette location de salle qu'on lui impose parce que les copropriétaires veulent aller à tel ou tel endroit ? Je ne le crois pas. Et on se rend compte qu'à travers ces exceptions, eh bien, ça confirme en fait le principe que j'énonçais. Et je pense qu'en pratique, la location ou à minima le défraiement de la salle doit être possible. Et rien ne me paraît dire dans les textes que le syndic a pour mission de fournir une salle d'assemblée générale. Sa mission, c'est de tenir, d'organiser, d'exécuter les décisions de l'assemblée, mais pas matériellement d'en permettre la réunion.
Oui. En tout cas, merci Pierre-Edouard. La loi Elan est venue dire, si on veut faire un petit parallèle, que les dépenses pour la visioconférence sont prises en charge par le syndicat des copropriétaires. Et là, c'est bien marqué.
Oui. Hein,
et on est un peu dans la même thématique. Donc pourquoi pas les frais de location de salles extérieures, on a compris peut-être, internes. Voilà. Le débat est ouvert en tout cas. Je vous remercie et on passe à la deuxième question du copropriétaire.
Les as de la copro, les questions copro.
Bonjour, je suis copropriétaire dans un immeuble ancien à Paris. La descente d'eau a cassé, une fuite relativement importante s'en est suivie. Et notre syndic, sans nous aviser, a commandé son remplacement. A-t-il le droit de le faire ? Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence et il n'avait pas d'autre choix ? Et ne devait-il pas consulter notre AG ou au moins le conseil syndical avant de lancer ses travaux ?
Ok, on a bien compris la question de cette personne qui est au conseil syndical. On parle de quoi ? On parle de l'autonomie du syndic. On a compris, il y a des règles, hein, seuil de mise en concurrence, consultation du conseil syndical, assemblée générale extraordinaire, urgence. Mais à un moment donné, quand ça fuit, ça fuit. Hein. Sabrina, est-ce que le syndic a ce degré d'autonomie ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Hein, là, le collecteur, ça pète, ça fuit. Rappelez-nous en pratique ce qu'il fait habituellement, et puis après, le cadre juridique, mais la théorie et la pratique.
Bon, je vais commencer par la pratique. Du coup, en pratique, on nous apprend effectivement qu'une descente d'eau a cassé, c'est ce cas-là qui est présenté. Le syndic prend connaissance, évalue tout de suite la situation. C'est la première des choses qu'il réalise. Donc, il va y avoir un plombier qui va se rendre sur place et donner ses premiers constats. Si les parties communes sont dégradées, si les parties privatives sont touchées, si on a, par exemple, une fuite en cascade qui vient impacter l'ensemble du patrimoine, le syndic va prendre une décision à ce moment-là. Et sa décision, ça va être soit de réparer dans l'urgence, soit de changer la descente en question. Et bien évidemment, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il prend cette décision parce que quand on est dans l'action, on n'est pas dans l'information à ce moment-là. Et je pense que c'est quand même son rôle de prendre ce type de décision pour en tout cas conserver le patrimoine de ses clients et de faire cette réparation ou changer cette descente. À ce moment-là, une fois qu'il a pris cette décision et que les travaux sont enclenchés, il va informer, en général le conseil syndical lui-même élu, pour l'informer de la situation et puis de la décision qu'il a prise.
Là, il n'a pas fait une réparation provisoire.
Là, il a pas fait.
Il a remplacé la fonte, il y en avait pour peut-être 3 000 euros. Quoi.
Voilà, alors c'est pareil, il faut évaluer, c'est-à-dire que s'il a pris la décision de remplacer la fonte, c'est bien qu'on est en tout cas dans une situation qu'on appellerait dans la profession d'urgence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser fuir et qu'une mesure conservatoire finalement engagerait des frais peut-être déjà assez importants et que finalement le delta entre cette réparation et ces mesures conservatoires et sa réparation elle et sa changement de descente lui-même n'est quand même pas très éloigné. Alors on peut justement évoquer les seuils parce que c'est de ça qu'on parle aussi. Il y a le critère d'urgence qu'on pourra évoquer juste après en théorie, comment on le met
La sauvegarde de l'immeuble.
C'est la sauvegarde de l'immeuble, c'est-à-dire qu'il agit dans l'intérêt de la copropriété et dans ces cas-là, il prend la décision, il l'assume. Il va devoir en rendre compte lors de l'Assemblée générale suivante. Il va peut-être faire ratifier ses travaux parce que si son budget ou son seuil a été dépassé d'autorisation d'engagement de dépenses, eh bien dans ce cas de figure, il va devoir rendre compte quand même à l'Assemblée générale suivante.
Alors voilà, c'est ça. Est-ce qu'on connaît beaucoup de syndics qui convoquent une Assemblée générale extraordinaire pour 3 000 euros ?
Alors ma réponse est, moi je n'en connais pas. mais je pense que cette question se pose surtout si on est sur une toute petite copropriété qui a un budget minimum et qu'on n'aurait peut-être même pas les moyens de pouvoir payer cette facture, auquel cas je pense que le syndic raisonnablement prendrait peut-être une décision
mais
différente.
Pour autant, il va quand même devoir faire un appel de fonds puisque oui. Vous le dites, c'est pas dans le budget. Donc on est un peu entre deux, on est border. Je fais un appel de fonds parce que c'est nécessaire pour payer ma fonte à 3000 euros. Je vais pas convoquer une AG pour 3000 euros, surtout que tout le monde est d'accord pour remplacer cette fonte, mais je suis légalement pas dans les clous pour autant. Donc la solution, c'est de ratifier. Alors, du Conseil syndical et ratification à la prochaine AG.
On ratifie effectivement ces travaux à l'Assemblée générale suivante dès lors qu'on a dépassé ce seuil. Lors de l'Assemblée générale, les syndics mettent des points à l'ordre du jour et notamment cette autorisation de mise en concurrence des entreprises, l'autorisation qui est donnée aux syndics, l'autorisation qui est donnée au Conseil syndical, en tout cas son autorisation d'agir dans le cadre d'un montant. Et si on le dépasse, effectivement, il devra en rendre compte, donc il validera ces travaux lors de l'Assemblée générale suivante. Toutefois, il aura pris une décision, encore une fois, dans un cadre qu'il a estimé urgent. Et il me semble que qu'il n'y a pas un côté border dès lors qu'il agit dans l'intérêt du syndicat des
copropriétaires. En tout cas, l'appel de fonds pour le plan comptable nécessaire, mais il n'a pas le caractère d'exigibilité en termes juridiques.
Oui.
Donc on gère. Voilà, l'urgence, on fait au mieux, on fait suivant le bon sens, comme on dit, en gestion raisonnable, bon père de famille, comme on disait.
Oui.
Mais
j'ajouterais qu'un gestionnaire qui connaît bien son immeuble, il connaît aussi bien la trésorerie qu'il dispose. Donc effectivement, il n'a peut-être pas mandat.
D'où l'intérêt d'avoir un budget prévisionnel assez large. Pour bien gérer tout au long de l'année ce genre d'imprévu.
Exactement, il faut reconnaître que ces imprévus, comme son nom l'indique, ne sont pas prévus au budget, même s'il y a un petit budget qui est alloué. D'ailleurs, on peut avoir un budget de 10-15 000 euros, par exemple, sur des travaux d'entretien courant pour un immeuble. Il est possible de le dépasser dès lors qu'on a des imprévus tout au courant de l'année. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, la pratique.
Et
les syndics agissent.
Le budget peut être dépassé, effectivement.
Ouais. Tout à fait. Et pour autant, c'est pareil, le budget qui a été voté n'est pas forcément celui qui est réalisé. En théorie, le critère d'urgence, effectivement, il y a une procédure qui permet, justement, dans la loi de 1865, qui permet de mettre en exécution une procédure d'urgence. Alors, j'entends par urgence, effectivement, est mis en défaut la sécurité des personnes ou bien la conservation des biens.
Dans ce cas de figure, parce qu'il y a du contentieux. Hein.
Exactement, dans ce cas de figure. Donc on peut considérer qu'une descente qui est cassée est urgente. On doit faire cette réparation de façon urgente. Il y a bien sûr bien d'autres sujets qui peuvent être urgents, comme le chauffage, comme une chaudière qui lâche en plein hiver aussi. C'est de l'urgence. La procédure est la suivante. Le syndic est censé informer l'ensemble des copropriétaires, déjà de l'événement qui vient de se produire. Il doit envoyer un courrier. Il doit bien évidemment engager les travaux. En prévenant le conseil syndical, il doit appeler immédiatement un tiers des fonds. Il doit convoquer aussi immédiatement, sans délai, une assemblée générale qui va permettre de financer l'intégralité de la dépense et donc fixer aussi le planning de financement.
Et là, vaut mieux que ce soit ratifié, parce que la commande, elle est faite. Hein.
Exactement. Donc, c'est une décision qui n'est pas anodine.
Et après cette assemblée, il peut appeler les deux tiers restants auprès des copropriétaires.
Exactement. Là, ce n'est pas du tout anodin pour un syndic. Hein. Ça, c'est une responsabilité qui est lourde, mais je pense qu'on peut tous entendre, et je ne crois pas que, en tout cas, Pierre-Édouard nous confirmera ou pas, mais qu'un tribunal condamnerait un syndic dans ces conditions, s'il a estimé
Après, il y a la relation de confiance. Moi, un immeuble qui ne me ratifie pas ça, je leur dis, bon, écoutez, alors, ok, je vais la payer, la descente, mais par contre, je ne suis plus votre syndic. Hein, vous allez changer de syndic. Pierre-Édouard, un petit mot pour terminer.
Juste un mot. Parfois, le conservatoire se confond avec le réparatoire. C'est-à-dire que quand on installe des étés, on voit bien qu'on a un conservatoire distinct du réparatoire. Quand on a une colonne fuyarde, c'est parfois difficile d'envisager de chemiser. Je veux dire, le chemisage ou le changement de la colonne, parfois, effectivement, c'est le même coût, c'est le même délai d'intervention. Il n'y a pas tellement d'intérêt.
Une petite rustine, un petit pack salut.
Donc, bon, il faut être raisonnable. Il faut, je crois, avoir décisions. Un peu de bon sens, tant pis pour le juridique. Bon, l'avocat ne doit pas dire ça, mais de temps en temps, en copropriété, le bon sens.
Ça se voit qu'il traîne avec des gestionnaires, hein, de plus en plus.
Non,
hein.
mais dans tout simplement d'être au contact de la pratique. Et c'est vrai que un peu de bon sens et un peu de bonne pratique fluidifie beaucoup les rapports et évite des procédures. Notamment, les procédures, elles viennent davantage du fait qu'il y a une fuite qui perdure que du fait que le syndic ait pris une action efficace. Ceci dit, la responsabilité du syndic, elle est quand même engagée du fait du non-respect des procédures, puisqu'il a une obligation vis-à-vis du syndicat de respecter les règles, de faire les appels de fonds tels que la loi le prévoit. Et en fait, le problème, quand on parle de l'urgence, de manière systématique, c'est la procédure. Et donc, quand on se rend compte qu'en pratique, le problème, c'est la procédure, ben peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas réformer la procédure.
Effectivement.
Alors, je sais qu'on nous dit toujours, oui, les avocats, vous voulez toujours réformer. Oui, mais parce que peut-être qu'à un moment, c'est parce qu'on est au-devant des problèmes, qu'on les constate et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et la procédure d'urgence, elle ne fonctionne pas. Mmh. Et ça fait 60 ans qu'elle ne fonctionne pas. Ça fait 60 ans que les auteurs la rappellent. Et ça fait 60 ans qu'on dit que ça n'est pas respecté, que tous les syndics font ratifier l'année suivante, qu'il n'y a aucun devis dressé pour les besoins de l'appel provisionnel pour pouvoir l'approvisionnement du chantier, que les conseils syndicaux ne sont pas consultés immédiatement, que l'Assemblée n'est pas réunie sous huitaine et que donc la procédure n'est quasiment jamais mise en œuvre. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être la réformer, penser à donner un pouvoir peut-être au conseil syndical de coaction avec le syndic pour permettre une bonne procédure efficace et qui soit protectrice de tous. C'est-à-dire des intérêts du syndicat, des copropriétaires et des acteurs. Et là, on a un travail qui est peut-être de l'ordre du réglementaire, a priori du réglementaire, parce que c'est fixé, toutes ces procédures, par l'article 67, par le décret de 67. Donc je crois qu'il faudrait qu'on travaille sur ça.
Effectivement,
pour permettre d'avoir quelque chose de plus efficace et de pérenne.
On gagnerait en autonomie et surtout on collerait à la pratique. Vous voyez, Tariq, on a les mêmes sujets. Pour conclure, un petit mot, on parle exactement de la même chose.
Complètement. Que ce soit d'ailleurs sur l'injonction de paiement de laquelle on a parlé tout à l'heure, on a effectivement les mêmes problématiques. Voire sur, je suis sur un immeuble où un ascenseur effectivement est défaillant, il y a un coût derrière, les copropriétaires, les caisses sont vides. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse l'ascenseur à l'arrêt, on le remet en marche, qui finance ? Enfin, on est exactement dans les mêmes problématiques. En tout cas, je vous remercie de m'avoir laissé participer à cet échange ô combien intéressant.
Et c'est un podcast Radio Immo qui vous pourrez partager, bien sûr, au Maroc pour faire cette communion de pratiques entre nous autour de ce beau métier de syndic de copropriété. Je vous remercie beaucoup, Tariq. Merci beaucoup, Sabrina.
Merci
beaucoup, Pierre-Edouard.
Merci
toujours très bavard malgré sa petite angine.
Voilà. J'ai dit que la présence de nos invités m'avait redonné beaucoup d'énergie.
Exactement. Voilà.
Je reviens plus souvent.
La copropriété, le syndic booste et redonne de l'énergie. Je vous remercie à tous. Merci nos auditeurs. Ciao, ciao.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.